Bonjour tout le monde. Alors c'est la table ronde compliquée, vous m'entendez?
Ouais.
C'est la table ronde compliquée parce que c'est après manger, on ne savait pas bien si elle commence à 14h30 ou à 15h, il est 40, on va y arriver, il y a peut-être des gens qui vont arriver après, c'est pas grave, on va gérer. Alors c'est compliqué pour ça et c'est compliqué aussi du fait de son titre, mais d'abord je vais me présenter rapidement. Donc Hélène Gassin, je suis membre de Global Chance depuis je ne sais pas quand, je suis formellement membre. J'ai eu le bonheur douloureux ou le douloureux bonheur, je sais pas, de coécrire un bouquin avec Benjamin. Donc je l'ai vu sous toutes ses facettes. Voilà, des coups de fil le matin, tout ça. Donc voilà, je connaissais bien aussi Benjamin. Je vous épargne les différentes anecdotes parce que voilà, vous en avez eu beaucoup. Je suis consultante spécialisée sur les questions d'énergie et par ailleurs, depuis quelques mois maintenant, depuis un an, je crois, je préside l'association Négawatt, qui a une forme de filiation assez évidente pour les gens qui travaillent sur les questions d'énergie. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette présentation personnelle. Le titre de la table ronde a fait beaucoup réagir ce matin dans la salle, donc je précise que je n'y suis pour rien. Le nucléaire entre promesses cornucopiennes et impuissance politique, c'est joli. On va voir les réactions dans la salle, j'ai quand même vérifié ce que voulait dire précisément cornucopien sur Wikipédia. Je sais, c'est pas bien, il y a beaucoup d'universitaires dans la salle. Donc le cornucopien est celui qui vit dans le mythe de la corne d'abondance, selon lequel l'avenir est un progrès continu et illimité, où l'humain continuera à maîtriser son environnement grâce à sa puissance technique et à son inventivité. Tout y est, je crois. C'est à peu près l'inverse de nous. Voilà. Donc, pour traiter cette question que nous avons donc éclaircie, voilà. On a une table ronde avec des hommes. C'est rare de devoir le préciser quand on parle de nucléaire, mais bon. Donc j'ai Antoine de Ravignan, journaliste à Alternative économique et auteur récent, ça fait un an et demi, je ne sais plus, d'un bouquin qui s'appelle Nucléaire, stop ou encore. Donc voilà, qui a ces deux titres, à ces deux titres-là. Je commence par les zones pour une fois.
Oui.
Martin Denoun, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas bu. Chercheur à l'Université de Liège et Julie Lerneus, députée Europe Écologie de Loire-Atlantique. Voilà, j'ai présenté tout le monde. Je vous explique le déroulement. Je pose une question à l'un des intervenants, il répond, les autres réagissent et on passe au deuxième intervenant. Voilà, donc on a fait un truc un peu saccadé parce qu'on s'est dit que vous seriez fatigué du repas. Donc on va essayer de mettre de l'ambiance. Donc je vais commencer avec Martin qui va nous parler. Bah, alors lui, on est en plein dans le cornucopien là, quand même. comment le secteur nucléaire se projette dans le futur. Donc... allons-y, et je note le temps.
Merci aux organisateurs, je le redis, mais c'est important de le dire. Ce matin était quand même...
Merci, de manière plus générale aussi, en tant que quelqu'un qui a fait sa thèse et qui l'a soutenue il n'y a pas très longtemps, mais l'inspiration, en fait, que des textes que peuvent, voilà, des productions de manière générale de Global Chance et la manière dont ça irrigue, en fait, de manière pas toujours visible, en fait, mais voilà, l'itinéraire d'enquête, de recherche, en fait, et ça fournit des points d'appui quand même assez robustes, intéressants, stimulants. Et voilà, on a fait plusieurs entretiens ensemble. J'ai également eu l'occasion de rencontrer Benjamin Dessus, et voilà, ça a toujours été des quelques rencontres comme ça, des points de passage un peu marquants dans une trajectoire. Donc merci pour ça. Donc on m'a demandé de parler de l'imaginaire cornucopien du nucléaire. Alors c'est à la fois facile parce que c'est un peu évident, il est un peu là partout, et puis c'est pas si facile puisque ça demande de rentrer dans quelques considérations techniques. Je vais essayer de pas trop le faire. Et sachant que moi, voilà, mon travail a consisté à s'intéresser à cet imaginaire, donc on pourrait dire imaginaire du salut, justement. Donc on va retomber rapidement sur les questions théologiques, religieuses, qu'on a affleurées ce matin. Et puis voilà, moi après j'ai décrit ce que je ne ferai pas aujourd'hui, mais comment ces 20 dernières années, avant les fameuses annonces de Macron, disons, on était sans doute passé dans un autre type d'imaginaire, en tout cas, où l'imaginaire du salut se frottait à d'autres types d'imaginaires qui consistaient pour les gens du secteur, essentiellement à se demander comment ils allaient survivre les 20, 30 ou 40 prochaines années. Donc voilà, la question c'est comment est-ce qu'on est passé de plusieurs millénaires à 30 ou 40 ans. Et donc, bah, pour vous dire un peu comment se constitue cet imaginaire du salut, je pense que c'est important d'avoir en tête qu'il se constitue quasiment immédiatement, en fait. Donc on fait un grand retour arrière et il y a les développements, bah, il y a la bombe qui explose, il y a Hiroshima et Nagasaki. On pourrait même revenir avant, en fait, hein, au moment des recherches sur la transmutation, où tout de suite les physiciens et les chimistes comprennent qu'il y a du potentiel énergétique, en fait, et que dans le futur, ça pourrait devenir une source éventuelle. La bombe matérialise un peu ça, parce que d'un côté, l'horreur, évidemment, de la bombe, et de l'autre, un grand nombre de physiciens voient d'abord de l'énergie, hein, ce qui explose, en fait, à Fukushima. Également, c'est également d'énergie, mais à Hiroshima, donc, c'est également d'énergie, et donc, très rapidement, en fait, il va y avoir une théorisation, une construction de cet imaginaire du salut qui consiste à dire que le nucléaire ouvre une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, bah, c'est celle de l'abondance énergétique, celle de l'illimitation, évidemment à prix très, très réduit, ce qu'on peut tous constater aujourd'hui, et le fait que donc le potentiel énergétique en fait, du matériau nucléaire va rendre possible voilà, un nouveau monde énergétique. Donc, ça, c'est un peu le point de départ. Et très rapidement, pour me restreindre au cas français, hein, parce que ce genre de production a lieu un peu partout, dans tous les pays où se mettent en place de la recherche sur l'énergie nucléaire. Jules Guéron, par exemple, donc en 1946, donc, qui est le chimiste en chef du CEA qui vient à peine d'être né, et en juillet 1946, il écrit un article qui s'appelle « Énergie nucléaire et politique générale ». Donc on voit déjà qu'il y a une ambition un peu générale dans le propos. Parle du potentiel énergétique de l'énergie nucléaire. Il dit, je cite quelques phrases, quantitativement, ce qui importe, donc on recoupe d'ailleurs avec quelques éléments qu'on a donné sur Benjamin Dessus ce matin, mais quantitativement, ce qui importe, c'est l'ordre de grandeur. À masse égale transformée, l'énergie dégagée est 1 million de fois au moins plus grande dans les réactions nucléaires que dans les réactions de combustibles les plus efficaces. Donc là, il se réfère au pétrole. La consommation d'électricité annuelle de la France s'obtiendrait grâce à la fission de quelques tonnes d'uranium-235, il suffirait donc de mettre en œuvre quelques centaines de tonnes d'uranium ordinaire par an. Donc la proposition, elle est double. D'une part, elle consiste à dire le matériau nucléaire est une telle densité énergétique qu'on a besoin de très peu de matériaux nucléaires, comparativement à ce dont on a besoin pour le charbon et pour le pétrole. Et par ailleurs, il nous propose un horizon temporel nouveau, puisque le fait qu'il soit très dense fait qu'on va en avoir pour très longtemps. Et alors cet imaginaire du salut, ce qui est important de saisir, c'est qu'il va être en tension permanente, et donc en fait cet imaginaire du salut, il survit aujourd'hui, hein, sous des formes un peu différentes, mais il est en tension depuis le départ, et il l'est toujours aujourd'hui, avec une frustration. Et cette frustration, c'est celle du fait que ce potentiel énergétique que les physiciens ont devant les yeux, il n'est pas facilement extrayable, donc extractible. Donc l'uranium 235 contenu dans l'uranium naturel ne compose que 0,7% du matériau, et c'est seulement cet uranium qui est fissile lors de la réaction nucléaire au sein des réacteurs, des REP par exemple, là, qui est en gros de la flotte mondiale là, aujourd'hui des réacteurs. Donc la frustration, c'est celle de ne pouvoir extraire qu'une très infime partie de ce matériau énergétique, et du coup les promesses d'abondance sur des millénaires, le fait qu'on oublie tout le reste en fait parce que le nucléaire produit ce phénomène de rupture, bah, il est confronté au fait que c'est très très compliqué d'extraire ce matériau, sachant que la proposition, le dispositif technique qui permet d'extraire cette énergie, ça se fait à travers une technologie donc qui a émaillé l'histoire des mouvements d'opposition au nucléaire notamment, qui est la technologie surgénératrice, donc ce qu'on appelait les réacteurs surgénérateurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les réacteurs à neutrons rapides, et ce qu'on peut appeler parfois les réacteurs de quatrième génération, ce que Césine évoquait, le fait que le dernier réacteur en date là-dessus, ça a été le projet Astrid, et il a été abandonné en 2019 après 10 ans de projet. Et donc, à ce moment-là, se met en place l'idée très rapidement qu'il va y avoir deux moments dans l'histoire du nucléaire, une période très temporaire, qui est appelée comme ça, période temporaire, où il y aura les réacteurs qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, il y aura une deuxième période, qui sera la période des surgénérateurs. Et donc, on parle à l'époque de réacteurs primaires et de réacteurs secondaires. Donc, il y a vraiment l'idée que la période qu'on vit aujourd'hui, en fait, n'est qu'un moment avant de parvenir à cette technologie qui nous fera entrer, en gros, dans l'ère de l'abondance énergétique. Alors, tout s'est évidemment pas passé comme prévu. Dans les années 70, il y a quand même un tas de pays qui se sont mis à travailler là-dessus, puisqu'il y a eu le choc pétrolier. Là, il faudrait revenir sur toute une histoire énergétique et un contexte énergétique particulier. Mais le fait que tout d'un coup, on a pu se dire, vu l'augmentation des prix du pétrole, vu voilà, en gros les chocs pétroliers, les prix de l'uranium vont augmenter. Les réserves mondiales d'uranium sont limitées, les prix vont augmenter, et du coup, on va être contraint de passer à cette technologie de réacteur qui permet théoriquement d'économiser le matériau et de ne plus avoir besoin de ressources minières. Parce que bon, là, je fais exactement ce que j'avais dit que je ne ferais pas, mais c'est de rentrer dans les considérations techniques. Mais c'est important parce que l'idée de la promesse de ces réacteurs, c'est aussi de dire. On n'aura plus besoin des mines. Et du coup, c'est un imaginaire qui dit, et à l'époque, on parle de mines nationales. Donc l'idée, c'est qu'on n'a plus besoin, on n'est plus dépendant des ressources géologiques. Donc l'idée, c'est vraiment de se détacher de la dépendance géologique. Et cette nouvelle ère d'abondance, elle est faite par, elle est assurée par un dispositif uniquement technique qui va reproduire, en fait, le matériau, puisque c'est réacteurs surgénérateurs disposent théoriquement, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, de reproduire en partie le fameux plutonium. Et là-dessus, le deuxième article de Guéron, je vais rester sur Guéron parce qu'on va dire que c'est notre personnage, dit dans son deuxième article en 49, qui s'appelle « Avenir de l'énergie nucléaire, considération sur l'avenir nucléaire », à long terme, c'est l'optimisme qui doit prévaloir. Le combustible nucléaire, en effet, est le seul que nous connaissions, qui soit automultiplicateur. Dans l'uranium naturel, pendant que l'isotope 235 se consomme, le 238 se transforme en plutonium-239, qui est lui-même un combustible nucléaire. Donc là, il y a tout l'imaginaire de la circularité qui se met en place, qui est le garant de cet imaginaire cornucopien, voilà, nous disant qu'on entre dans cette ère. Je vois que je suis quasiment aux 10 minutes qu'on m'avait allouées, je ne suis pas du tout au bout, mais...
Il reste 2 minutes.
Ah, il me reste 2 minutes quand même. Allez. Bon. Donc,
on a commencé en avance.
Une des questions, en fait, intéressantes, c'est de te demander qu'est-ce qui nous reste de ça. Ce qui est assez impressionnant quand on regarde, quand on se replonge dans l'histoire des récits nucléaires, des mises en histoire, des mises en graphique, c'est qu'il y a des graphiques, il y a des images qui traverse l'histoire du nucléaire vraiment depuis ses débuts. Il y a des expressions, des manières de représenter sous forme de camembert le fait que tout d'un coup, le camembert représentant cette ère de l'abondance, cette formule neutronique qui sont reprises encore aujourd'hui et voilà, qui traversent les âges comme ça. Donc on pourrait se dire, finalement, rien n'a changé. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, il y a 4 ans, le CEA, quand il faisait sa présentation pour le projet Astrid, il nous redonnait cette formule initiale, nous expliquant la capacité autoproductrice du matériau. Et pourtant, mais là, j'ai pas le temps de développer, donc je vous laisse sur un cliffhanger, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir justement au-delà de cette espèce de corpus d'expression, de schéma qui se maintient, qu'est-ce qui a changé. Et à mon avis, ce qui a changé, ce qui a été un peu l'objet de ma recherche, ça a été de dire... Précisément toute l'infrastructure, en fait, nucléaire, qui est ce qui, précisément, est invisibilisé par cet imaginaire cornucopien. Ça veut dire qu'on ne parle que de matériaux, de potentiel énergétique. Et ça consiste généralement à se dire que le nucléaire, on nous le dit, d'ailleurs, c'est très dense par rapport aux éoliennes, aux renouvelables. Le nucléaire est très concentré. Évidemment, c'est plus ou moins le cas. Et là, il y a les fameuses cartes sortir du nucléaire qui sont très efficaces là-dessus. Vous avez les cartes qui vous représentent la carte de France avec les 19 centrales qui sont là. Donc finalement, le nucléaire, l'infrastructure nucléaire serait ces 19 points sur la carte. La carte sortir du nucléaire, voilà, ce qui diffracte en gros cette infrastructure sur l'ensemble du territoire et puis montre que déjà, une centrale, c'est plusieurs réacteurs, que sur une centrale, il y a beaucoup d'autres choses que des réacteurs, il y a plein d'autres bâtiments, qu'en fait, il y a toute une infrastructure du combustible, donc il y a plein d'autres usines sur le territoire, il y a plein de résidus qui sont créés à chaque étape, il y a eu des mines, il y a des résidus miniers, il y a des endroits où il va falloir stocker les matières. Donc il y a tout d'un coup tout un territoire nucléaire qui surgit et qui est précisément ce qui est invisibilisé par cet imaginaire du salut. Et donc, l'enjeu, il me semble aujourd'hui, mais ce qui a été donc largement fait par les militants antinucléaires depuis un certain temps et par un certain nombre de chercheurs, c'est de montrer que cette infrastructure, elle est bien présente, elle est bien terrestre, elle pose un certain nombre de problèmes. Et les difficultés, au fond, les fragilités du nucléaire, aujourd'hui, sont directement liées à cette infrastructure existante, quoi, à ce territoire nucléaire. Voilà. Merci.
Moi, juste pour me présenter aussi, puisque je suis arrivée un peu quand même par hasard à cette table ronde, mais j'ai déjeuné chez Bernard, parce que je pense que tout le monde qui est passé à la tribune a déjeuné chez Bernard, et qui m'a demandé à cette occasion remplacer Dominique Voynet. Alors, je n'ai pas du tout la prétention de remplacer Dominique Voynet, mais dans mon histoire personnelle, ayant commencé et rentrer chez Les Verts par le biais de Dominique Voynet, je trouvais ça particulièrement intéressant. Et deuxième hasard est que j'ai été élevée aux Pays-Bas, où la culture énergétique n'est pas du tout la même. Notamment, la réaction du pays face au choc pétrolier n'a pas été, quelque part, l'abondance choisir un autre mode d'énergie, mais plutôt aller sur diminuer notre dépendance au pétrole, et donc instaurer, alors c'est plus facile, c'est un plus petit pays, notamment par le biais des transports, et diminuer la dépendance notamment à la voiture et au pétrole, mais on n'avait pas non plus d'industrie automobile dans ce pays-là. Et donc quand je suis arrivée pour faire mon master à Sciences Po Paris des Pays-Bas, j'étais assez frappée cette nucléocratie, ou en tout cas cette croyance absolue, et l'impossibilité d'interroger quelque part la culture énergétique française prédominée par le nucléaire. Et le hasard a fait que dans mon master sur l'Europe, j'ai choisi dans ma matière lobbying européen de faire un mémoire sur l'existence ou pas, c'était plutôt le pas qui était la conclusion, mais des mouvements antinucléaires en Europe. Et à cette occasion, j'ai interviewé pour mon mémoire Hélène Gassin, qui à l'époque était responsable de l'énergie à Greenpeace. Et donc, ça a rebouclé les choses. Pour revenir à la question posée sur le cornucopien dans le nucléaire, je pense que c'est le sujet sur lequel on évacue, et c'est particulièrement visible aujourd'hui avec le discours de Jean Covici, et c'est particulièrement palpable aussi. Et c'est aussi pour cela que le nucléaire se vend bien sur le dos du climat. Je dis bien sur le dos du climat. En gros, on dit on a un énorme sujet, qui est le réchauffement climatique, qui fait peur à juste titre à énormément de gens, et en particulier aux jeunes. On voit des changements qu'il va falloir y avoir dans nos modèles de société, notamment sur notre rapport à l'énergie. Et plutôt que de changer, on nous dit il y a une solution miracle, et c'est le nucléaire. Et de fait, ça évacue tous les problématiques, et c'est beaucoup plus simple, quelque part, de continuer à croire dans ce progrès technique, technologique, sans en voir l'autre facette. C'est un peu ce qui est décrit quand même dans le grand bluff technologique. Je trouve que de Jacques Ellul, on voit dans le nucléaire, cela est appliqué de manière absolument évidente, et contrairement peut-être à d'autres sujets sur lesquels, même si on a parlé ce matin de la réautorisation du glyphosate, on a quand même plus de publications, on entend plus, y compris dans les médias, les méfaits des technologies qu'on a pu inventer. Or, sur le nucléaire, en particulier en France, dans le système dans lequel on est, il y a quand même une omerta et une opacité. Et d'ailleurs, le débat sur Astrid en 2019, la responsabilité notamment politique des écologistes qui serait à l'origine de la descente aux enfers de la filière nucléaire française, paraît particulièrement absurde dans le débat qu'il y a aujourd'hui en France. Mais la relance, et notamment à travers la commission d'enquête, mais j'en parlerai tout à l'heure, à laquelle j'ai participé, lancée par les Républicains Schellenberger, démontre et met encore en proposition qu'on ait un nouveau réacteur de quatrième génération qui ferait qu'on n'aurait plus de problèmes de déchets. Ce qui évacue le débat qu'on peut avoir à Bure, ce qui évacue le débat qu'on a sur le débordement des piscines à La Hague, parce que les déchets sont un domaine dont on ne peut pas débattre en France, parce que c'est un domaine des anti-nucléaires, et il faut rayer tous les arguments qu'il pourrait y avoir et décrédibiliser celles et ceux qui les portent. Donc je pense que le nucléaire, pour le coup, dans l'imaginaire cornucopien, il a trouvé pleinement son idéologie et sa place.
Antoine ?
Moi, je vais réagir un petit peu en contre, parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Il n'y aurait pas de débat. D'abord, sur un point d'histoire, je ne suis pas du tout certain qu'au moment d'Hiroshima et Nagasaki, quand on lance aux États-Unis le programme Atom for Peace, Truman, il y ait un quelconque imaginaire cornucopien à propos du nucléaire civil. J'ai plutôt l'impression que c'est un imaginaire qu'on fait passer, c'est une instrumentalisation du nucléaire militaire. Pour faire passer le nucléaire militaire, on dit on va faire le programme Atom for Peace, et pour faire rêver que ce nucléaire finalement a un intérêt. Mais à l'époque, je ne crois pas que personne, à part le mouvement technocratique aux États-Unis, imagine que le nucléaire est un avenir énergétique. Donc je pense que c'est plutôt un alibi pour faire passer le programme militaire. Oppenheimer disait le nucléaire civil, c'est de la connerie. Il y croyait pas, et je pense que beaucoup de scientifiques à l'époque n'y croyaient pas beaucoup. Après, ça a changé. Je pense qu'effectivement, après, on a le nucléaire civil a nourri un certain imaginaire, mais je ne crois pas qu'au départ, on y croyait tellement, quoi. C'était plutôt un alibi politique pour faire passer le programme militaire. Et autre réserve que je formulerai, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un imaginaire cornucopien du nucléaire ? Ben, j'ai pas l'impression. Si on lit la BD de Jean Covici, il dit pas que le nucléaire, c'est le salut. Hein. L'essentiel de sa BD, quand même, son argument, c'est la sobriété, et le nucléaire, c'est le parachute ventral pour freiner la chute. Et si on analyse les discours officiels du... Tout le discours du gouvernement, le discours de Belfort, etc., le nucléaire... Est un élément de la décarbonation, mais il n'y a pas que ça. Il dit, il faut faire des économies d'énergie. Le rapport RTE, c'est les économies d'énergie, c'est le déploiement des renouvelables, et c'est le nucléaire. C'est les trois piliers. Dans les économies d'énergie, on nous parle même de c'est le discours. C'est le discours, c'est ça. Donc c'est une espèce de rationalité. On nous dit pas le nucléaire va nous sauver. On nous dit on a besoin du nucléaire pour être sauvé, mais c'est pas tout à fait la même chose. Voilà.
On va passer au deuxième temps de la table ronde qui va peut-être rapprocher les points de vue, puisqu'on va parler de l'articulation entre cet imaginaire-là, cornucopien, ça y est, vous avez bien intégré le truc, et l'articulation avec la décision politique. Alors ça a été évoqué aussi ce matin, hein, mais forcément on a des sujets qui se chevauchent. On a tous en tête les déclarations soit de Dominique Voynet sur le combat acharné, et puis vous êtes un certain nombre dans la salle à avoir participé de ce combat pied à pied, jour après jour, pour ne pas signer, pour rajouter des mots ou la réversibilité dont on entend parler. Donc on a ça. On a tous aussi, je pense, entendu Corinne Lepage et ce n'est pas possible, Madame la Ministre. Donc il y a un sujet d'articulation entre le nucléaire et la décision politique. Donc je vais arrêter là. Et donc pour introduire ce sujet, je repasse la parole à Julie.
Oui, de mettre donc plus petit recul que ce qu'aurait pu faire Dominique Voynet à l'époque, qui était quand même au cœur des responsabilités à lesquelles on peut un certain partie du mouvement peut reprocher des choses, mais qui a aussi beaucoup agi pour mettre des coins aussi dans la stratégie nucléaire. Ce qui est intéressant dans le mémoire que j'avais fait sur les mouvements antinucléaires en Europe, c'était justement d'analyser le fonctionnement de la démocratie avec justement les stratégies que pouvaient avoir les mouvements antinucléaires dans les différents pays européens. Et comme on est en France dans une démocratie qui est quand même dominée par la décision de l'exécutif, une difficulté, notamment dans les stratégies des mouvements antinucléaires, de pouvoir accéder à des postes à responsabilité pour pouvoir réellement influer la décision. Et donc, il s'est traduit en France notamment, qui est un des pays quand même les plus nucléarisés au monde, par plutôt des stratégies d'affrontement ou frontales par rapport au pouvoir, à quelques exceptions près, celles où on a participé au gouvernement, que ce soit directement aux manettes, ou pas totalement sur ces sujets-là, ou en tout cas essayer d'influer la décision au cœur de l'État, avec tous les contre-pouvoirs qui sont à l'œuvre et qui sont puissamment à l'œuvre au cœur de l'appareil de l'État, et puis dans des accords électoraux, et notamment celui qui a été l'objet, j'ai envie de dire principal, de la commission d'enquête sur lequel on a fait 150 heures d'audition, qui était que c'était l'accord des Verts et du PS avec François Hollande, notamment pour réduire la part du nucléaire à 50%, qui aurait été à l'origine de la grosse déconvenue de la filière du nucléaire dans la décennie qu'on vient de passer, et une espèce de revanche qu'on sent aujourd'hui, c'est-à-dire ces corps d'État toujours présents, qui ont dû se taire face à la catastrophe de Fukushima, qui a quand même, chez les Allemands, réveillé une décision complètement inverse, qui a ouvert un débat, qui a ouvert aussi une forme de rationalité dans un débat, mais en tout cas qui a permis qu'on puisse en discuter, de la dangerosité du nucléaire. Et ben, tout ça, en fait, en France, on voit une véritable revanche. Je trouve que l'illustration était la rapporteure qui a été nommée sur le projet de loi d'accélération sur les procédures nucléaires, comme si c'était les procédures liées à l'installation du nucléaire qui étaient à l'origine des retards. Enfin, c'était quand même absolument hallucinant. Autant pour les énergies renouvelables, on pouvait se poser la question. Autant sur le nucléaire, ça n'était absolument pas ça qui est à l'origine du retard, par exemple, de Flamanville. Mais Maud Bréjon, qui, juste avant d'être élue députée, était quand même ingénieur pour EDF, qui faisait la promotion du nucléaire, qui était rapporteur sur ce projet de loi. La personne ne voit l'idée de se déporter parce qu'on aurait peut-être des intérêts contradictoires. On est supposé porter quand même l'intérêt général quand on est élu de la nation, me semble-t-il, et qui a eu des propos qui étaient extrêmement forts, qui allaient même au-delà de ce que disait la ministre de la Transition énergétique, allant dans le sens du Rassemblement national, qui, eux, voient 20 EPR tout de suite maintenant. Je vois pas pourquoi on attendrait 15 ans. Enfin, qui sont au-delà de tout débat rationnel. On démantèle toutes les énergies renouvelables. Alors là, il y a un imaginaire qui je pense qu'il va au-delà du cornucopien, enfin, qui est le populisme, tout simplement. Mais on voit là, enfin, en tout cas pour moi, ce qui est très palpable dans la période actuelle, c'est vraiment cette revanche de cette caste nucléocrate qui a dû se taire pendant une dizaine d'années et qui, enfin, tient sa revanche. Je voudrais quand même, dans le discours de Belfort, les mots qui sont prononcés pour annoncer la relance du nucléaire, qui est quand même en rupture avec la politique de Emmanuel Macron jusque-là, qui disait on ne peut pas tout miser sur le nucléaire, etc., qui soutenait plutôt l'émergence de soutenir la filière des énergies renouvelables, c'est la France, par la stratégie dont elle se dote, fait le choix du progrès, de la confiance en la science, en la technologie et en la raison. La France fait le choix du climat. C'est ça les mots qui sont utilisés pour relancer le nucléaire. Et je pense que c'est totalement dans le thème de la table ronde aujourd'hui. Et c'est totalement aussi dans ce à quoi on fait face. C'est vrai que certains ont parlé aussi, et c'est vrai que la période n'est pas quand même très rose. C'est-à-dire on a eu une période où on a cru qu'on crantait des victoires du mouvement antinucléaire, qu'on pouvait faire émerger les politiques publiques de sobriété, d'efficacité énergétique, parce que les solutions, on les a, elles sont à portée de main. et qu'on pouvait enfin avoir une filière pour développer la filière des énergies renouvelables, qui avait quand même pris un certain nombre de retard par rapport à d'autres stratégies, puisqu'on a tout misé sur le nucléaire. Pour autant, les mêmes stratégies sont utilisées, et quand on est député écologiste, dans une commission qui se rappelle à l'indépendance, la souveraineté énergétique et la fierté française. On nous dit qu'on va à l'encontre de la raison, qu'on ne défend pas réellement le climat. Et donc, on n'écoute pas les arguments qu'on peut donner ou les questions qu'on peut soulever auxquelles on ne répond pas, mais on attaque fortement les personnes, a fortiori, je pense que c'était important de le souligner, quand on est une femme. C'est-à-dire, on est une femme, moi je suis une femme, je ne suis pas ingénieure, mais j'estime qu'en tant que citoyenne, en tant que députée de surcroît, j'ai le droit de participer aux choix de société, aux débats démocratiques, et que j'ai le droit de poser des questions sur des choses qui peuvent m'inquiéter. Et c'est vrai que pour terminer ce schéma de politiques qui vont en fait, en réalité, qui ont toujours été là et installées pour faire avancer le nucléaire, parce qu'on n'a pas d'autres idées ou d'autres solutions où ça ne rentre pas dans notre schéma idéologique ou politique, dans l'idéologie poursuivie par Macron, la croissance, le développement économique, il n'est pas question d'y mettre un terme. Et donc, comme il n'y a pas de solution magique sur la sobriété, l'efficacité, etc., et ben, il faut trouver la source d'énergie inépuisable. Et donc, dans ce qui est poursuivi comme objectif, y compris aujourd'hui par la ministre de la Transition énergétique, suite au rapport et la commission d'enquête, c'est de concrétiser le surgénérateur qui va utiliser nos déchets et pour lequel on n'aura plus besoin de ressources minières. Et cette croyance est très présente. Et toutes les personnes qui vont prendre la parole pour poser des questions qui me paraissent légitimes à poser vont se faire railler. Moi, je pense que sur le lobby qu'il y a, y compris sur les réseaux sociaux, il est extrêmement véhément. Moi, je suis une députée qui n'est pas du tout connue sur le plan national, qui ne reçoit pas de menaces, etc., comme d'autres de mes collègues peuvent malheureusement recevoir, sauf sur le nucléaire. Et il se trouve que moi, je n'ai pas de problématique à porter cette voix sur le nucléaire, non seulement parce que je crois fondamentalement à ce que je fais et qu'il y a des... on va vers une fuite en avant, notamment sur le démantèlement du système de sûreté qui est absolument hallucinant et d'une dangerosité dont j'arrive même pas à saisir que personne ne se réveille ou ne s'émeuve plus que là, ça, face à ce qui est en train de se réaliser, surtout si on se projette en 2027 et que le pouvoir peut passer à l'extrême droite qui, eux, si on fait nous-mêmes sauter tous les garde-fous sur le nucléaire, ça peut être au-delà de l'imaginable. En tout cas, cette peur-là m'anime réellement. Mais donc, on voit la nécessité de pouvoir rendre ce débat quand même un peu plus rationnel dans ce pays. Mais cette fuite en avant, cette revanche et cette croyance absolue dans l'atome sans avoir le droit de regarder ce qui se cache derrière est absolument inquiétant dans la période. Est-ce que je peux dire
Ben, c'est déjà beaucoup. J'en profite pour dire qu'on est quelques-uns dans la salle à être les fossoyeurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Le Point a fait un grand reportage vraiment hyper documenté sur les fossoyeurs du nucléaire et j'étais très fière d'y être
quand même.
Voilà, Bernard, désolé hein, mais voilà, mais non, mais ce truc de la revanche, c'est effectivement un truc que je vais demander à Antoine de réagir, puis à Martin.
Non, là j'ai pas beaucoup de réactions, sinon de dire que je suis vraiment vraiment d'accord. Non, parce que je trouve que c'est bien parce que votre interface, ça affine le débat. On sort un peu. Je crois effectivement le discours de Macron de Belfort, la citation, elle est extraordinaire. Oui, c'est vraiment le discours de la raison, quoi. Et donc, effectivement, je ne pense pas qu'on est dans l'idée cornucopienne que le nucléaire, c'est l'alpha et l'oméga de notre problème climatique. Je pense que le discours de Belfort, il insiste aussi sur les renouvelables. Il présente un plan de déploiement des renouvelables. Il parlait aussi d'économie d'énergie, je crois. Mais effectivement, la place du le nucléaire est pour lui indispensable. Et c'est effectivement le discours s'est présenté comme un discours rationnel, scientifique, donc il y a circulé, il n'y a pas besoin d'avoir de débat. Voilà. Et donc je l'impose.
Croire, c'est se passer de preuves, on dit.
Sur la question du... de tout ce qui s'est passé en 2012, en fait, de la manière dont les acteurs nucléaires se sentent en fait soutenus ou pas par le corps politique, c'est vraiment un élément assez essentiel dans... chez les acteurs du milieu nucléaire, comme j'en ai rencontré pas mal dans ma thèse. Donc c'est pareil, quand on parle de un tel pense ça ou ça, la question c'est qui. Il y a plein d'acteurs, il y a les acteurs politiques, là Macron, mais voilà, il y a les institutions nucléaires qui produisent des rapports, des schémas, des scénarios, et puis voilà, qui vont pousser les fameux 6 EPR. En fait, ils apparaissent pas au moment où Macron les... quelque chose qu'on peut suivre, hein. Ça fait très très longtemps, c'est un vieux scénario qui date des années 90, il circule dans différentes arènes depuis longtemps. Il poussait, à un moment ils y croyaient d'ailleurs quasiment plus, et puis tout d'un coup, en fait, pour certaines raisons, un peu une configuration particulière à un moment donné, pouf, ça peut sortir. Donc en fait, c'est une espèce de vieux scénario rédigé il y a très longtemps, et là, en fait, qui ressort, parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Mais ça me fait penser au fait que, quand je les rencontrais, en fait, ils ont vraiment été marqués par deux moments. C'est le moment 97-98, en fait, où ils perdent pour la première fois, en fait, hein, depuis la guerre, depuis que les institutions nucléaires se sont mises en place, le soutien politique. Donc, c'est la première fois que, en fait, on leur dit non, il y a des choses, il y a des décisions qui sont prises contre leur avis, et ça les a marqués profondément. En fait, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, littéralement, il y a quelque chose qui arrive, qui est là, inédit, quoi. Et qui les marque durablement. C'est-à-dire que moi, j'ai les acteurs, je fais des entretiens à la fin des années 2010, et ils me racontent ce moment que Dominique Voynet m'avait raconté, que Bernard aussi m'avait raconté. Ce moment où on leur dit non, en fait, c'est vraiment absolument insupportable et impensable, en fait. Hein. Ça fait 4-5 décennies que ça n'arrive pas. Et le moment de 2012, c'est le deuxième moment. C'est-à-dire qu'en effet, tout d'un coup... les 50% du mix, ça passe pas, quoi. Ça, c'est pas passé, quoi. Ils l'avaient là, ça paraît pas fou, quand même, hein. On leur dit que ça va rester à puissance stable. Et en fait, pour eux, c'est une perspective décroissante. C'est l'idée, c'est limité, quoi. Donc, on voit que la question, c'est pas de savoir... L'imaginaire cornucopien, il est évidemment totalement différent de ce qu'il était dans les années 40, 50 et 60. Mais il y a des résidus, et ces résidus-là, ils s'activent à certains moments. Par exemple, le fait que ce soit absolument insupportable... Une perspective décroissante, c'est lié aussi au résidu de cet imaginaire qui doit être intimement croissant. C'est-à-dire que donc le fait d'être stable, c'est comme une mort, quoi. Enfin, et par ailleurs, juste un point sur le réacteur un neutron rapide sur les déchets. Bon, là, pareil, c'est vraiment pas sérieux, quoi. C'est-à-dire que là, pareil, ça dépend qui parle, mais à l'intérieur des institutions nucléaires, n'importe quelle... Enfin, j'en ai rencontré plein qui sont des croyants nucléaires, mais ils savent que ça ne résout pas le problème des déchets. Enfin, je veux dire, c'est la question aussi, c'est qu'est-ce qui fait que là, il y a des notes qui sont passées de la part d'institutions et qu'il y a des députés qui les reçoivent et qui peuvent répéter mot pour mot ce qui est dit, alors que les acteurs qui leur transmettent la note savent que ce n'est pas vrai, quoi. Donc, c'est fou. Enfin, c'est... Voilà.
La troisième partie, c'est affreux parce que j'anime et j'aurais envie de répondre à tout, de réagir, de passer. Donc on va rentrer dans la troisième partie de cette table ronde. Donc là, vous avez compris le dispositif, c'est Antoine qui fait le propos introductif. On a parlé de l'articulation avec la décision politique ou de la non-articulation, je ne sais pas comment il faut dire, parce que si la décision, dans le bon sens, elle est niée, parce que l'accord de 2012, c'est lui qui a mis fin à... Enfin, c'est à la faute de l'accord de Minsk, mais il n'a jamais été appliqué. Donc je ne sais pas comment on a fait, juste par sa formulation, peut-être. Je ne sais pas, c'est la pensée magique. Donc là, on va rentrer dans est-ce que les spécificités du nucléaire, alors cornucopien, pas tout à fait, ou en devenir, est-ce que c'est compatible, et au vu aussi de l'histoire récente, on va dire ça comme ça, avec les enjeux d'une démocratie moderne. On a évoqué la question de la démocratie technique ce matin, mais est-ce que dans une démocratie moderne, on peut se contenter ou se satisfaire ou vivre avec cet objet en matière de décision. Voilà, je laisse Antoine.
Je ne sais pas si je vais bien répondre, mais enfin, oui. Oui, moi, je voulais effectivement parler de ce point de la démocratie technique dont on a un peu parlé ce matin. Il y a un paradoxe qu'on peut relever, c'est qu'on, dans ce pays, on n'arrive pas à avoir un débat serein sur la question nucléaire, stop ou encore, alors que les institutions de la démocratie technique ont plutôt progressé dans le bon sens au cours des dernières décennies. Il y a encore une trentaine d'années, la décision sur le sujet, c'était pris par le gouvernement et la technostructure, point barre. Bon, aujourd'hui, c'est un peu toujours la même chose, mais quand même, les institutions prévoient qu'il doit y avoir un débat public. On a des institutions un peu plus ouvertes. On a une information publique un peu plus transparente, une expertise indépendante qui est montée en puissance. Merci Global Chance. On a une population qui est plus formée, qui est plus informée. Bon, bref, on a comme des conditions qui sont là pour avoir un débat. Et ce débat est escamoté par le gouvernement et la technostructure, quoi. Alors c'est normal, le pouvoir y résiste, ok. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que cet escamotage du débat démocratique, c'est pas vraiment un sujet d'indignation. C'est comme si ça faisait pas débat, au fond, le nucléaire aujourd'hui. Comme si il y avait une nécessité de relancer le nucléaire. Alors aujourd'hui, les mouvements, on se bat autour de Notre-Dame-des-Landes, on se bat sur Sainte-Soline, on se bat sur la 69, mais j'ai pas l'impression qu'on se batte avec autant de véhémence sur Penly. Bien sûr, il y a des bagarres à Bure, mais c'est sur l'arrière-plan, quoi, de la scène médiatique. Ça n'a pas le même niveau d'intérêt. Alors pourquoi c'est loin derrière? On peut faire l'hypothèse que, enfin, c'est ce qui a été un peu dit ce matin, c'est que la relance du nucléaire est très largement perçue en France, y compris chez beaucoup d'écologistes, comme une des réponses indispensables et rationnelles face à la crise climatique, quoi. Ce serait le seul choix rationnel. Alors on est tous d'accord dans cette salle pour se dire qu'il y a d'autres rationalités qui sont tout aussi rationnel. On peut atteindre la neutralité carbone sans construire de nouveaux réacteurs, Négawatt, l'ADEME, RTE. On construit des scénarios de décarbonation qui nous disent que on peut très bien sortir du nucléaire et que ces scénarios tiennent la route sur un plan technique et sur un plan économique. Et en fait, ce qui est présenté comme une vérité scientifique, on a besoin du nucléaire, ce que nous dit Macron à Belfort, en fait, c'est un construit politique. Et c'est ce construit politique qui précisément permet de déconstruire le politique. Pas la peine d'avoir un débat démocratique, puisque c'est le seul choix rationnel, quoi. Alors du coup, moi, je vais développer un peu en trois temps. Rappeler d'abord les progrès de la démocratie technique qui ont abouti à la loi de 2019, énergie-climat, qui nous promettait un débat public sur le nucléaire, et ce débat qui n'a pas eu lieu. Revenir un peu sur la période récente qui a un torpillage finalement de tous ces acquis de la démocratie technique. Et puis terminer sur un peu la nature de la torpille, c'est-à-dire la manière dont le rapport RTE a été utilisé pour construire une pseudo-rationalité qui nous dirait que le nucléaire, on en a absolument besoin, on ne peut pas faire autrement, quoi. Alors le nucléaire, ça a toujours été un lieu de secret, d'opacité, et le militaire a été un peu l'alibi de tout ça. Mais on a eu quand même beaucoup de progrès en matière de transparence et en matière de débat public. Sur la transparence, on peut rappeler le tournant important de la loi sur la transparence et sécurité nucléaire de 2006, la loi TSN. C'est à partir de ce moment-là qu'on crée l'ASN comme autorité de sûreté indépendante, qui s'appuie sur l'expertise de l'IRSN qui a été détachée du CEA quelques années plus tôt, en 2002. Et c'est aussi cette fameuse loi TSN qui établit une séparation entre les fonctions d'expertise et de décision. Bon, ça, en tout cas, c'est le schéma. Sur le débat public aussi, on a eu des avancées, puisque c'est à peu près à la même époque que la CNDP, créée par la loi Barnier de 1995, devient une autorité indépendante en 2002. Évidemment, ça ne règle pas le problème. Les débats sur l'EPR de Flamanville en 2005 et sur CIGEO en 2013 sont des catastrophes, comme ça a été dit ce matin, parce que on peut débattre sur l'objet, sur la peinture qu'on met sur la pièce, mais pas sur le bien fondé du sujet et les orientations de la politique nucléaire qui sont derrière. Alors après ça, c'est un peu progressé. Il y a eu le drame de Sivens en 2014. Et après ce drame, des ordonnances en 2016 du gouvernement qui prévoient qu'on peut élargir le champ du débat public à des programmes. On parle plus la CNDP peut être saisie plus simplement plus uniquement sur un projet industriel particulier, exemple Cigéo, exemple EPR de Flamanville, mais peut aborder la question, un programme complet peut rentrer dans le champ de la saisine de la CNDP. Donc ça, c'est un progrès important. C'est comme ça qu'en 2018, la deuxième programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'un débat public, ce qui n'avait pas été le cas avant. Et le problème de cette PPE, c'est que le gouvernement ne voulait pas, absolument pas qu'on dise ce qu'on fait du nucléaire. Mais enfin bon, il y avait quand même un débat public. Et la PPE ne tranche pas à l'époque sur le sujet et reporte le débat plus tard. Alors plus tard, on arrive à la loi énergie-climat de 2019 qui dit qu'avant 2023, il faut une loi de programmation énergie-climat qui enfin devra se prononcer sur ce qu'on fait avec le nucléaire, devra avoir une nouvelle PPE, et cette nouvelle PPE devra faire l'objet d'un débat public puisqu'on a eu les ordonnances de 2016 qui permet qu'on soumette à débat public un programme, un plan programme, et pas simplement un projet particulier. Donc tout ça, ça va plutôt dans le bon sens. On a, avec cette loi de 2019, finalement, la promesse que, enfin, pour la première fois dans l'histoire du nucléaire en France, il y aura un débat public sur les choix énergétiques, et dont le nucléaire en particulier. C'est ce qu'on croit. Sauf que pendant la discussion parlementaire de cette loi énergie-climat, le gouvernement introduit un amendement assassin qui prévoit que, s'agissant de la politique énergétique, la saisine de la CNDP n'est pas obligatoire. La PPE n'est pas obligatoirement soumise à saisine de la CNDP. On peut faire ça simplement, on peut faire une simple consultation, et c'est ce qu'a fait le gouvernement. Donc la CNDP, c'est une autorité indépendante de toutes les parties. Avec une simple consultation, le gouvernement est à la fois juge et parti, et cette consultation, personne n'en a entendu parler. Et le problème, évidemment, c'est que... le problème, c'est que le gouvernement, voulant construire 6 EPR et 2 à Penly pour commencer, comme il s'agit d'objets physiques, d'objets techniques, il est obligé de saisir la CNDP. Donc débat public sur le projet Penly et les 4 réacteurs suivants. Mais on ne débat pas. Le problème, c'est que ce débat public qui a eu lieu entre octobre 2021 et février 2023, il ne peut pas aborder la question de fond, parce qu'on ne peut pas discuter de 6 nouveaux réacteurs nucléaires si en même temps on n'a pas une vision d'ensemble sur la politique énergétique, sur l'évolution de la demande, sur l'évolution des énergies renouvelables, etc. Donc ce débat était complètement faussé dès le départ. Et c'était une des raisons pour laquelle il s'est aussi mal déroulé. Puis après, donc ça, c'était un premier torpillage du débat public sur le nucléaire en France. Les deux autres torpillages, ça a été la loi d'accélération du nucléaire qui a été mise dans le débat, qui a été présentée une semaine après le début du débat public, et les amendements du Sénat en janvier qui utilisait cette loi, qui était plutôt une espèce de loi administrative où il n'y avait pas de décision sur le fond, mais pour introduire une décision sur le fond, et qui devenait une loi où on décidait de construire de nouveaux réacteurs. Et le gouvernement n'a absolument rien trouvé à redire, ce qui a entraîné effectivement des claquages de portes d'un certain nombre d'associations qui avaient accepté de participer à ce débat. Donc on a eu une phase de progrès en gros jusqu'en 2019, et puis ensuite torpillage. Je crois que il me reste à peu près deux minutes pour conclure. Donc on a eu cette phase de progrès, torpillage. Mais question, pourquoi cette régression démocratique aujourd'hui, ça n'émeut personne? Alors un élément de réponse, c'est le caractère prétendument rationnel, scientifique du discours de la relance. Le discours du gouvernement, c'est pas le nucléaire va nous sauver face au réchauffement climatique, il dit pas ça. C'est pas le cornucopianisme. Le discours, c'est pour atteindre le net zéro, il faut qu'on fasse beaucoup d'économies d'énergie, j'ai dit tout à l'heure, qu'on fasse beaucoup de NR, et qu'on s'appuie aussi beaucoup sur le nucléaire. Donc c'est scientifiquement démontré. Regardez l'étude de RTE. Et cette fameuse étude de RTE, c'est intéressant parce qu'elle procède un peu d'une démarche scientifique. À l'automne 2018, on est en pleine crise des Gilets jaunes. Il y a une polémique à l'époque sur EDF qui veut lancer 6 nouveaux réacteurs, alors qu'on ne sait même pas ce nouveau nucléaire est capable de produire l'électricité, est-ce qu'il est capable d'en produire de manière sûre et raisonnable, on n'en sait rien. Et Macron, dans un discours du 28 novembre, il refuse de trancher sur la question. Il dit au contraire, on va lancer une étude scientifique qui permettra de faire le bon choix. Bon, tout ça, et donc l'étude, elle se fait. C'est l'étude RTE avec ses fameux scénarios, les uns de sortie du nucléaire, les autres de relance, et dont le jeu d'hypothèse centrale fait apparaître que l'option la moins chère, c'est celle qui maximise le nucléaire, c'est celle des 14 réacteurs. Donc l'étude, elle paraît le 25 octobre, et 9 jours plus tard, Macron annonce pour la première fois à la télé, nous allons lancer la construction de réacteurs nucléaires. C'est la première fois qu'un président de la République, depuis 30 ans, dit ce qu'on va faire sur le nucléaire. Et l'étude RTE, elle est plutôt solide. Mais les hypothèses centrales, notamment les conditions de financement du nouveau nucléaire, sont très favorables à la relance. Mais la même étude de RTE montre qu'avec des hypothèses pénalisantes qui correspondent à la réalité des marchés des capitaux, l'intérêt du nucléaire devient économiquement très faible, voire nul. Donc la vraie conclusion de l'étude de RTE, c'est pas que le nucléaire est un choix qui s'impose, comme veut le faire croire le gouvernement et toutes les élites. C'est pas un choix qui s'impose pour atteindre le net zéro. C'est la conclusion de l'étude de RTE, si on la lit correctement, c'est que c'est qu'en réalité, on a le choix. Et qu'on a d'autant plus le choix que les écarts de coûts entre les différents scénarios sont assez limités et qu'il y a beaucoup de toute façon d'incertitudes dans tous les sens, techniques, économiques. Voilà, c'est ça que dit vraiment l'étude RTE. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu dire dans mon livre, c'est que même si on s'appuie sur cette étude, on a le choix en fait. L'étude commandée par le gouvernement nous dit on a le choix. Par contre, il y a eu une instrumentalisation politique de cette étude à partir de ces hypothèses principales. Et effectivement, il y a eu une espèce de ruse de la raison, quoi. On a une instrumentalisation politique du discours scientifique qui fonctionne très bien. Donc effectivement, si la raison impose ce choix, alors le débat démocratique est inutile. Voilà. Le seul problème, c'est que ce n'est pas la raison qui impose ce choix, c'est la verticale du pouvoir.
Merci. Martin, une réaction ?
Enfin, j'ai plusieurs réactions. D'abord, c'est vrai que démocratiquement, on ne décide pas de manière démocratique, mais on n'a jamais, en fait, en réalité, décidé de manière démocratique, malgré les instruments qu'on a faits sur la politique énergétique française. Hélène l'a rappelé, même l'accord de 2012 n'est pas mis en pratique. Le nombre de réacteurs qui auraient dû fermer ne sont pas fermés, ni programmés en fermeture. Et surtout, la montée en puissance des énergies renouvelables n'est pas du tout faite. Et puis, dans les auditions qu'on a pu mener dans le cadre de la commission d'enquête, on voit bien Arnaud Montebourg, pour ne citer qu'un exemple qui fait partie du gouvernement de François Hollande, qui représente et reçoit, bien évidemment, et continue à recevoir le lobby du nucléaire. C'est pas le seul, il continue à voir François Hollande. Enfin, en tout cas, le lobby du nucléaire n'a rien lâché, même s'ils ont perdu en façade. Dans les faits, rien n'a été fait ou mis en pratique par le gouvernement et par les corps de l'État pour concrétiser l'engagement politique qui avait été pris. Et donc, démocratiquement, on ne peut pas dire que la politique énergétique ait été suivie. Il en va des mêmes sur les lois qui sont votées. Aujourd'hui, on a une loi qui dit quoi ? Qui dit qu'on aurait dû avoir et présenter au Parlement une loi de programmation énergie-climat avant le 1er juillet 2023. On est en novembre 2023. On a, dans le calendrier parlementaire, toujours aucune perspective d'une loi sur la programmation énergie-climat. Dans la crise climatique qu'on vit actuellement, la crise énergétique, est-ce qu'on peut comprendre rationnellement qu'il n'y ait pas un débat politique sur quelle est notre politique énergétique ? On a eu deux contournements d'une loi de programmation énergie-climat sur l'année précédente. Une sur les procédures visant à accélérer les énergies renouvelables, dont on doute aujourd'hui si elles vont vraiment permettre de l'accélérer vu la complexité qu'on a rajoutée, sans intégrer aucun objectif. On n'a aucun objectif de production, qu'est-ce qu'on va faire en chaleur renouvelable, qu'est-ce qu'on va faire en éolien, on n'a aucun objectif.
paradoxalement, on a la loi sur l'accélération du nucléaire, où normalement il ne devait pas y avoir d'objectif, mais pourtant on a réussi à enlever l'objectif des 50% d'une loi de programmation énergétique précédente par une loi technique, et on a quand même réussi à glisser les 6+8 EPR dans la loi. C'est-à-dire qu'on a un contournement total des instruments démocratiques pour une stratégie. Normalement, une nouvelle loi de programmation énergie-climat doit faire décliner les instruments qui le concrétisent, notamment la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, sur les 5 ans à venir plus les 5 ans. Aujourd'hui, c'est qui va décider ça ? C'est Elisabeth Borne directement sous l'égide de la planification écologique. Comment on définit notre stratégie nationale bas carbone, qui est un autre instrument de l'État ? On contourne absolument la démocratie. Je trouve que même s'il y a des instruments qui ont été mis en place sur la politique énergétique, on a pu avoir une façade de démocratie sur la politique énergétique. Dans les faits, on n'a jamais eu de débat en France sur quel est notre modèle énergétique. Plus inquiétant encore, c'est que moi, je participais en tant que parlementaire au groupe de travail que la ministre avait mis en place autour de la construction d'une future loi de programmation énergie-climat. En catastrophe, ramassée en 4 mois avec des politiques, mais aussi des associations, des collectivités territoriales, etc. Qu'est-ce qui ressort principalement de ces concertations dans des groupes qui avaient été manipulés, mis, on n'a pas eu le temps de travailler réellement, etc. C'est quand même, in fine, qu'il se rend compte, au plus haut niveau de l'État, que notre système énergétique ne boucle pas. Ça veut dire quoi ? Ça boucle pas. C'est-à-dire que même si on mise sur l'énergie et la relance du nucléaire, on ne sait pas vraiment si on va vraiment pouvoir prolonger les centrales d'autant de ce que sont inscrits dans les projections. RTE alerte là-dessus, dit. Nous, c'est des projections sur avec les données qu'on a de manière réelle. On ne sait pas si on va pouvoir prolonger les centrales au-delà de ce qui a été prévu. Deuxième élément, on ne sait pas, en fait, on n'a pas encore les nouveaux designs, des nouveaux EPR, etc. Et si ça arrive, c'est dans 15 à 20 ans. Or, et là-dessus, le RN est très fort pour taper sur les projections de RTE qui avaient été faites, qui visaient une baisse de la consommation électrique. Or, avec l'explosion des usages et la décarbonation, notamment des transports, on va plutôt vers une augmentation. Notamment, l'aviation, c'est 2 points de plus. Enfin, en tout cas, ça ne boucle pas dans notre système énergétique. Et donc, on se rend compte que dans le court moyen terme, donc dans les 15 ans à venir, on va avoir une augmentation de la consommation électrique. Et en face, même si on est pour le nucléaire ne permettra jamais d'augmenter l'électricité. Et donc, on a quand même une période. J'ai entendu ce matin en disant il ne faut pas se réfugier derrière, ça sera que dans 15 ans, parce que les gens se préoccupent quand même de décarboner le système énergétique dans 15 ans. Mais on a quand même un sujet de se dire, dans la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, le nucléaire, en fait, on ne parle pas des problèmes, la problématique aujourd'hui, très concrète, de notre système électrique, énergétique, ne boucle pas. Et je trouve que l'absence de débat total démocratique, en brandissant la solution magique de « le nucléaire va nous sauver », c'est quand même ce qui se passe. C'est ce qui se passe en Italie. En Italie, il n'y a aucune perspective de politique énergétique par le... Et qu'est-ce qu'on dit ? Le nucléaire. C'est bon pour le climat et on va avoir de l'énergie abondante et pas chère. Et à plus petite échelle, puisque moi je viens de Loire-Atlantique, la Loire-Atlantique s'est illustrée dans le combat contre Notre-Dame-des-Landes. Mais avant ça, le combat qu'elle a gagné, la Loire-Atlantique, c'est contre le nucléaire. Moi, quand je retourne dans mon département, des petits maires socialistes de communes rurales, ont participé à la lutte contre le nucléaire. Ils sont fiers qu'on puisse encore continuer. Il y a besoin, cette nécessité de participer à son destin et de pouvoir débattre de l'avenir et d'accepter ou de ne pas accepter ce qui se passe sur notre territoire. Bien, sur ce même territoire, la présidente de région de droite nous dit la centrale de Cordemais, puisqu'on a une centrale, une des dernières centrales à charbon, on va la remplacer par un SMR. Et alors, tous les responsables nationaux sont paniqués à cette idée. EDF a signé du bout des doigts ou du bout des lèvres un protocole d'accord pour pas qu'elle perde trop la face, mais ils disent le pire endroit pour mettre un SMR, en vrai, c'est la Loire-Atlantique. Enfin, la Loire-Atlantique, je pense qu'ils ne vont quand même pas se remettre à mettre des projets, parce que là, c'est éviter aujourd'hui de réveiller la lutte sur des projets concrets. C'est pour ça qu'on va construire des nouveaux EPR sur des sites existants. Ça fait qu'on n'a pas de foncier sur lequel on peut se mobiliser. On n'a pas d'outils de bataille juridique comme on a pu mener sur d'autres luttes écologiques. Et donc, on voit bien qu'ils ont bien analysé comment la lutte antinucléaire s'était construite et comment, du coup, dans le débat démocratique, on évite totalement de donner prise à quoi que ce soit comme élément qui pourrait remobiliser ou refaire poser des questions qui pourraient repartir en étincelles dans l'opinion publique.
Merci. Je vais remercier nos intervenants et intervenantes. Et puis, Bernard, c'est toi qui fais l'enchaînement.